soir. Une heure, un moment de musique, un compositeur, un voyage dans une œuvre pour découvrir les instruments de l'orchestre sur Radio Vassivière. Bonsoir à tous, bonsoir Christophe.
Bonsoir Catherine.
Aujourd'hui, nous vous proposons une visite guidée dans le monde foisonnant des instruments de l'orchestre symphonique.
Alors cette visite musicale, elle se fera grâce à une œuvre pédagogique qui est composée par un compositeur anglais qui s'appelle Benjamin Britten. Et le titre en anglais, je vais essayer, Young Person's Guide to the Orchestra. Ça veut dire guide de l'orchestre pour les jeunes gens. Mais avant de nous lancer dans cette visite guidée, on s'est dit que ce serait bien de vous dire quelques mots sur l'orchestre symphonique.
Oui, c'est vrai. On peut se poser cette question. Qu'est-ce que c'est qu'un orchestre symphonique ?
Alors d'abord, le terme orchestre, ça désigne un groupe de musiciens qui jouent ensemble de la musique, tout simplement. Il y a plein de types d'orchestres différents. On pourrait parler de l'orchestre de chambre, par exemple, qui a la particularité de regrouper un petit nombre de musiciens. Ou bien l'orchestre de jazz, qu'on appelle aussi le big band, ou bien encore l'orchestre d'harmonie, dont la spécificité, c'est de ne contenir que des instruments à vent et des percussions. Parce qu'à l'origine, l'orchestre d'harmonie jouait en plein air. Il y a également les orchestres d'opéra, dont le rôle est d'accompagner les chanteurs lyriques sur scène.
Oui, mais alors, orchestre symphonique, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, la symphonie, au départ, c'était une pièce musicale qui était destinée à être jouée par un grand ensemble. Et ça s'est formalisé au XVIIIe siècle, à l'époque qu'on appelle classique. Si on fait un peu d'étymologie, le mot vient du terme grec et ça veut dire faire des sons ensemble, tout simplement. Donc à l'origine, l'orchestre symphonique, c'est un ensemble de musiciens qui jouaient des symphonies telles que les ont écrites les premiers compositeurs de ce genre. Par exemple, on peut citer Sammartini ou Carl-Philipp Emanuel Bach, qui est un des fils de Bach, et puis bien sûr Joseph Haydn. Alors très vite, l'orchestre dit symphonique a joué bien sûr d'autres choses que des symphonies, par exemple des ouvertures d'opéra, des poèmes symphoniques ou des concertos. Mais le nom est resté pour le différencier ce type d'orchestre des autres orchestres.
Oui, mais c'est vrai qu'on entend aussi des fois parler d'orchestre philharmonique. Alors, c'est quoi la principale différence ?
Alors, en fait, il n'y a pas réellement de différence. Les deux noms sont différents, mais ça désigne le même orchestre. Le terme philharmonique est arrivé un petit peu plus tard dans l'histoire de la musique, au 19e siècle. Et ça désignait des rassemblements d'amateurs de musique qui créaient leur propre orchestre. Et philharmonie, ça veut dire qui aime en fait l'harmonie. Donc on a gardé un peu ce terme. Alors souvent, les orchestres plus récents s'appellent philharmoniques, plus anciens s'appellent symphoniques. Mais de fait, c'est la même chose.
Thank you.
Nous écoutions l'Académie für Altermusik de Berlin interpréter le premier mouvement de la symphonie en mi mineur WQ-178 de Carl Philipp Emanuel Bach, qui fut un des premiers compositeurs à écrire pour l'orchestre symphonique.
D'accord. Alors, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est qu'est-ce qui différencie l'orchestre symphonique des autres orchestres ?
Eh bien, ce qui caractérise l'orchestre symphonique, c'est qu'il regroupe quatre familles d'instruments. Les cordes, les bois, les cuivres et les percussions. Prenons un petit moment pour détailler ces quatre familles, pour apprendre un petit peu à les connaître. Donc la première, c'est la famille des cordes. Il y a quatre membres dans cette famille qu'on connaît bien, les violons. Et dans l'orchestre symphonique, ils sont divisés en deux groupes, le premier violon, deuxième violon. Ensuite, il y a les altos, et ensuite les violoncelles, et enfin les contrebasses. Mais aussi dans la famille des cordes, il y a également la harpe, qu'on oublie souvent de mettre dans cette famille. Et c'est un instrument à cordes, mais à cordes pincées, alors que les violons et tous les autres, en fait, sont des instruments à cordes frottées. Et on verra que dans la pièce de Britten, qu'on va écouter tout à l'heure, le compositeur a pris soin de donner en fait, un rôle conséquent à la harpe, qu'on va bien entendre.
Oui. Et alors, donc, les cordes. Et la deuxième famille ?
Alors, la deuxième famille, c'est celle des bois. Donc, c'est une famille d'instruments à vent et qui regroupe les flûtes, les clarinettes, les hautbois et les bassons, et auxquels s'ajoutent, en fait, dans des œuvres plus contemporaines, les saxophones. Donc, souvent, on connaît le nom de ces instruments, mais on ne sait pas toujours les reconnaître quand on les entend en termes de son. Donc, si on prend l'exemple de Pierre et le Loup, que peut-être des auditeurs ont déjà entendu, les flûtes, c'est l'oiseau dans Pierre et le Loup. La clarinette, c'est le chat. Le hautbois, c'est le canard, qui termine mal. Et le basson, qui est un instrument très particulier, grave et en même temps chantant, c'est la voix du grand-père.
Ah oui, alors on les appelle les bois, mais pourtant il y a la flûte, le saxophone, si je me souviens bien, ils sont en métal.
Oui, c'est très juste, effectivement. En fait, quand on les appelle les bois, non pas parce qu'ils sont en bois, mais parce que la plupart d'entre eux utilisent une petite tige de bois qu'on met dans le bec et qui sert à faire le son. Et ça s'appelle une hanche. Mais cette explication n'est pas tout à fait satisfaisante non plus, parce que les flûtes, qui autrefois étaient en bois et maintenant sont en métal, n'utilisent pas de hanches. Mmh. Voilà. Donc on ne sait pas exactement, c'est une convention. Et quelquefois, on utilise le terme petite harmonie pour parler de ce type, de cette famille de bois. Nous écoutions le premier mouvement du concerto pour flûte et orchestre symphonique du compositeur français Jacques Ibert, interprété par Emmanuel Pahut à la flûte et l'Orchestre symphonique de Lyon sous la direction d'Alain Altinoglou.
Alors, les cordes, les bois et les cuivres.
Alors, les cuivres, ce sont aussi des instruments à vent. Et la famille des cuivres est composée des trompettes, l'instrument le plus aigu, des cors, des trombones et des tubas. Et il y a également quelquefois des instruments beaucoup plus graves et plus grands comme le contre-tuba.
Vous avez certainement reconnu l'air du loup dans Pierre et le loup, interprété donc par les cors, Pierre et le loup de Serge Prokofiev, interprété par l'Orchestre National de France. Donc, on a parlé des cordes, on a parlé des bois, on a parlé des cuivres. Donc, la dernière famille d'instruments, ce sont les percussions.
Oui, c'est ça. Alors, il y a toutes sortes de percussions. On les divise d'habitude en deux sous-groupes, les percussions qui jouent des notes précises, comme par exemple les timbales ou le xylophone, et puis les percussions qui jouent des sons qui ne correspondent pas à une note de la gamme, comme par exemple les cymbales ou les maracas. Alors le nombre et le type de percussions a beaucoup augmenté au fil des siècles, puisque les premiers orchestres symphoniques, donc on a dit que c'était au XVIIIe siècle, ils avaient même assez rarement des timbales. Et comme quand un compositeur comme Mozart ou Haydn avait la chance d'écrire une symphonie pour un orchestre qui possédait ce type d'instrument, bah, du coup, ils en profitaient pour faire une belle partie de timbales et faire des œuvres qui étaient très imposantes et très solennelles. On peut citer par exemple la symphonie qui justement s'appelle « Roulement de tambour » de Joseph Haydn. Et elle s'appelle comme ça parce que c'est la première fois qu'une pièce musicale commençait directement par un roulement de timbales. Et donc les auditeurs étaient stupéfaits, ils n'avaient jamais entendu ça. Ou bien la dernière symphonie de Mozart, qu'on appelle Jupiter, et dès qu'on l'entend, on ne peut pas en fait, ne pas entendre les timbales. À l'époque moderne, beaucoup de compositeurs ont petit à petit étoffé les percussions. Et les deux qu'on pourrait citer, parce qu'ils sont vraiment caractéristiques sur cet aspect-là, c'est Gustav Mahler, qui a écrit des œuvres monumentales avec beaucoup de percussions, et puis aussi le russe Dmitri Shostakovich. nous écoutions François-Xavier Roth et l'Orchestre des siècles jouer un extrait du Sacre du printemps d'Igor Stravinsky, une musique pour orchestre où les instruments à percussion et plus généralement le rythme jouent un grand rôle.
Oui, en effet. Passons maintenant à l'œuvre que nous vous proposons d'écouter pour vous familiariser avec les différentes familles d'instruments que nous venons de lister. Elle a été écrite par Benjamin Britten.
Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce compositeur ?
Oui, bien sûr. Alors, Benjamin Britten, c'est un compositeur anglais qui est né dans le Suffolk le 22 novembre 1913 et qui est décédé à Aldeburgh le 4 décembre 1976. Son papa, qui était chirurgien-dentiste, interdisait la radio et le gramophone à la maison pour inciter les membres de la famille à pratiquer la musique. En fait, c'était sa maman qui était chanteuse et pianiste et même son institutrice qui ont appris le piano à Benjamin. Et à 11 ans, il apprend la composition, si bien qu'il compose sa première œuvre à 15 ans. Ce sont 4 chansons françaises pour soprano et orchestre sur des poèmes de Victor Hugo et Paul Verlaine. Bon, au cours de sa vie, il va s'exiler aux États-Unis au début de la guerre et il continuera là-bas à composer des œuvres. Et de retour en Angleterre en 1942, il créera l'English Opera Group, en fait en 1947, qui prendra la renaissance de l'opéra anglais. Il faut savoir aussi qu'il composera des œuvres très connues comme Le Songe d'une nuit d'été pour l'English Chamber Orchestra ou même l'opéra Le Tour de l'écrou. Une œuvre majeure reste son War Requiem, dont il dira qu'il a voulu exprimer, je cite, sa terrible angoisse face à cette sorte de génie qu'ont les hommes à s'étriper régulièrement depuis toujours et sans doute pour toujours.
Oui, une phrase qui est encore d'actualité, malheureusement. est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus dans quelles circonstances a-t-il écrit ce guide pour l'orchestre ?
Il a écrit cette œuvre en 1945 afin d'initier les jeunes aux instruments de l'orchestre. C'était en fait une commande pour un documentaire éducatif dirigé par Muir Mathieson, un chef d'orchestre écossais et qui était directeur musical. Et cette œuvre ce documentaire était interprété par le London Symphony Orchestra. L'idée ici était d'apprendre à reconnaître les différents instruments de l'orchestre, un peu comme Camille Saint-Saëns l'a fait avec le Carnaval des animaux ou même Serge Prokofiev avec Pierre et le loup. Il s'est inspiré du rondo d'Abdelazer du compositeur du XVIIe siècle, Henri Purcell, dont il a décliné le thème avec les différents instruments de l'orchestre.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, on peut dire quelques mots peut-être de la forme de la pièce qu'on va écouter. Puisque le principe, c'est que on va commenter la musique que nous allons vous proposer en citant les différents instruments. Et cette musique, c'est pas une symphonie, en fait, c'est une œuvre qui est composée sur un principe musical qu'on appelle thème et variation. Donc c'est assez simple, en fait, hein, ça veut dire que la première partie expose un thème. Donc cette fois, le thème va être exposé 5 fois de suite. Et puis ensuite, toutes les parties suivantes, ce sont des variations à partir de ce thème. C'est-à-dire que chaque partie reprend le thème, mais le modifie un petit peu, ou quelquefois beaucoup, quelquefois pas beaucoup. Et c'est ce qu'on appelle une variation. Et donc dans cette pièce, il y aura, après le thème, 13 variations. Pour expliquer un petit peu plus, on peut dire que dans la variation, le thème reste sous-jacent. À la variation, non seulement parce que le nombre de mesures reste le même, mais aussi parce que l'architecture générale du thème, et notamment la succession d'accords qui lui donne sa couleur spécifique, reste identique entre le thème et la variation.
Oui, un petit peu comme les jazzmen quand ils improvisent sur un thème.
Voilà, c'est exactement ça. La seule différence, c'est que pour la musique classique, la variation est écrite, alors que pour le jazz, elle est improvisée en direct par un interprète.
Eh bien, après cette longue introduction, nous vous proposons de commencer.
Alors, nous allons, comme je disais tout à l'heure, décrire au fur et à mesure les instruments qui vont être présentés dans le morceau. C'est pour ça que Britten l'a écrit, c'est pour mettre en valeur et présenter les instruments de l'orchestre. Donc au début, le thème sera exposé. On va retrouver les 4 familles dont on parlait tout à l'heure, qui sont globales. La famille des cordes, la famille des cuivres, la famille des bois et la famille des percussions. Et puis ensuite, il y aura 13 variations, et chaque variation, eh bien, elle durera une trentaine de secondes, donc c'est très court. Et chaque variation, ce sera un peu comme un coup de projecteur qui sera fait sur un instrument en particulier. On vous dira lequel à ce moment-là. Et puis, à la fin, on se taira, puisque le morceau se termine par une grande fugue, où tous les instruments vont réapparaître un peu comme un tour de piste, en fait. Et là, on vous laissera le plaisir d'écouter cette musique qui, vous allez voir, est très colorée et très agréable.
Et bien, c'est parti. Voici d'abord le thème exposé par la famille des Bois.
Thème exposé à la famille des cuivres.
Et voici le thème joué par la famille des cordes.
Thème aux percussions.
Et enfin, le thème joué par tout l'orchestre.
Première variation, les flûtes avec accompagnement de harpe.
Et voici la variation avec les hautbois.
Les clarinettes.
Et voici les bassons. Thank you.
et violon.
Les altos.
Le violoncelle.
Les contrebasses, accompagnées par les flûtes.
La harpe.
Neuvième variation avec les cors.
sixième variation avec les trompettes.
Les trombones et les tubas.
Timbales.
Le tambour, les cymbales.
Le tambourin. Et le triangle.
La caisse claire. Et le woodblock.
Le xylophone.
Les castagnettes.
Le fouet.
Et enfin, la grande fugue, où tous les instruments vont entrer les uns après les autres. Thank you. Nous espérons que cette présentation de l'orchestre vous a intéressé et qu'elle a su affûter vos oreilles pour vous repérer dans cet univers foisonnant et coloré de l'orchestre symphonique.
Nous vous conseillons vivement d'écouter cette version interprétée par le San Francisco Symphonic Orchestra sous la baguette de Michael Timson Thomas. Et vous trouverez le lien sur le site.
Voilà, merci de votre écoute. Nous vous souhaitons une belle soirée et nous vous retrouvons très prochainement pour une nouvelle émission.
C'était Rendez-vous au point d'orgue avec Catherine et Christophe sur Radio Vestiviaire.